Bienvenue chez les Papous de France Culture. En piste, Françoise Trossard et la belle équipe. Au menu, sur le banc, avec Dominique Muller. Un coup de gueule contre le bio, un échange entre trois drôles d'épistoliers et la publipapoucité Kafka par Patrice Caumont.
Même s'il voit pas la vie en rose, son humour froid comme une lame, en papillon se métamorphose, que le vrai brûle comme une flamme.
Ensuite, une nouvelle page de notre petit rimailleur ouverte au mot « poubelle ». Et 10 mots pour des histoires avec les papous Fournier, Conseil, Beignet, Bertrand et Delbourg.
Et encore, j'ai besoin de toi, de tes mains sur moi, de ton corps doux et chaud, j'ai envie d'être aimé, domino.
Et oui, les papous chanteront aujourd'hui, style papou. Pour le rattrapage et vos archives, direction franceculture.fr, un numéro des papous dans la tête à télécharger pendant un an. Merci de votre fidélité affectueuse à nos jeux. Et la porte est grande ouverte aux nouveaux qui nous découvrent. Elle est seule, accrochée à son portable comme une bouée. Elle écrit des textos comme elle jetterait des bouteilles à la mer. Quelqu'un les lira ou pas, lui répondra ou pas. Toute une histoire en SMS imaginée par Dominique Muller. Elle porte un titre, Dominique, cette histoire.
Cette histoire pourrait s'intituler « La vie derrière la fenêtre ». Nuit noire, hiver, heure tardive. Et c'est une personne appelée Poussin qui se trouve devant un immeuble.
Oui.
Donc il est très tard et elle est sur un banc. Mon lapin, comme convenu, j'étais à Pizza Paradiso. Me suis inquiétée. Était-ce au Dolce Vita? Suis en bas de chez toi, tu descends. Un quart d'heure plus tard. Réponds, lapin, t'en veux pas si problème? Me suis trompée de jour ou quoi? Dis-moi si on se voit ce soir ou non. Ou demain? Lance-moi la clé du studio, tu l'as bien eu ce matin à l'agence comme tu me l'as promis. Alors là, il commence à être très tard, il est minuit.
Ah oui.
Te vois derrière la fenêtre, sais que tu es chez toi. Ta femme encore dépressive et tes enfants tous malades. Leur chantage a trop duré, ne cède plus. Ton poussin est en bas, bientôt malade aussi. Fait un froid à pneumonie. 1h du matin. Partirai pas avant une réponse. Et quitter ma vie pour toi, pas d'endroit où aller. N'est plus que toi et tes promesses. Il est où ce studio? Avec l'adresse, j'arriverai à entrer dans la place. Je dirai que j'ai perdu la clé. Lance-la, je t'attendrai là-bas. 1h30.
Oh là là, la pauvre chérie.
Je suis déçue, lapin.
Oh bah oui.
Fermer tes rideaux, c'est vilain. Te croyais moins lâche et menteur que les autres. Si pas de réponse, je vais sonner chez toi. Sonner, sonner et advienne que pourra. 3 minutes plus tard. Raisonnable, ça fait 3 ans que je le suis. Je sais bien que c'est pas de ta faute si le studio n'était pas libre. Mais tu dois agir maintenant. Poser un ultimatum pour le divorce, c'est bien. Ce n'est pas le moment d'arriver comme un cheveu sur la soupe. D'accord, mais il faut en finir. Je te laisse une demi-heure. Sinon, tu verras. 4h du matin. Alors, tu descends ou on se voit quand? Le jour se lève, il pleut, je suis gelée sur le banc en face de chez toi. Ouvre les rideaux au moins, que je sache si enfin tout s'éclaire pour nous deux. T'en fais pas mon lapin, ensemble on a la vie devant nous, j'ai confiance.
Voilà, de la chance qu'il y ait un banc en face quand même, hein, parce qu'il n'y en a pas dans tous les quartiers.
C'est un joli quartier, voyez-vous, c'est un très joli quartier.
Ah oui, la pauvre chérie.
Un lapin et un poussin, ça peut pas marcher.
Non, qu'est-ce que vous en pensez, Patrice?
Moi, j'adore « Fait un froid à pneumonie ».
Ah oui.
Ça, ça me touche particulièrement.
Oui.
C'est presque l'essence du SMS, du texto.
Oui.
« Fait un froid à pneumonie ».
Où il sera question, justement, des humeurs de Patrice Delbourg. Il a le coup de gueule facile, Patrice. Il égratigne volontiers, par exemple, les chanteurs qu'il n'aime pas. Les chanteurs, d'ailleurs, il les connaît bien. Il a écrit sur eux pendant des années dans un magazine qui lui donnait carte blanche. Et vous pouvez retrouver ses textes dans ses mélodies chroniques et dans les funambules de la Rétournelle, écrit pour les papous, là. Il égratigne ou il encense. Et puis, il y a les choses qui l'agacent et contre lesquelles il peste en écrivant par Je Papou des pamphlets. Vous ne serez pas forcément de son avis. On attend vos messages, réactions, rubrique commentaires des papous du jour. Il est sur quel sujet votre pamphlet, Patrice Delbourg?
Alors, j'espère ne pas faire trop de peine à cette table en m'insurgeant contre la polichinellerie du bio. Les magasins bio, l'alimentation bio. Oui, je vois des regards sévères.
Oui, oui, Eva est en face de vous, elle vous tense du regard.
Qu'y a-t-il de plus sinistre au monde qu'un magasin d'alimentation bio?
C'est pas faux, ça.
Dites-moi un peu, dites-moi, les commerces de Roumanie sous Ceaușescu, la Bulgarie avant les charabeux, toutes ces échoppes de denrées équitables vous donnent une furieuse envie de vous pendre à la poutre maîtresse d'une succursale de la vie saine. Quelle vaste fumisterie, le bio! Autant distribuer des mirlitons dans un funérarium. Et les clients des bio, quelle angoisse! Ils sont tellement cafardeux et maussades, les bipèdes qui fréquentent les magasins bio, anéantis comme des réverbères désaffectés en moyenne banlieue. On a envie de leur faire illico des intraveineuses de Sobuco, des perfusions de jarret de veau aux lentilles, du goutte à goutte de Chablis à cette bande de bléchards neurasthéniques. Avec leur démarche frileuse et éco-citoyenne, ils tombent déjà d'inanition devant un cajot de Scarol passé au savon noir. Quelle tristesse, quelle indigence, cette main blafarde qui se tend vers un flacon de sirop d'agave, un sachet d'agar-agar, une soupe miso, une galette de riz sans sel, mais c'est le sel dans son assiette. Plus c'est rabougri, plus c'est cher. Les argousins des rayons bio s'en mettent plein les poches. Prix dopé pour une poignée de graines de sésame, importées en jet privé de l'autre bout du monde, pour un blanc de poulet acheminé par porteur spécial depuis une ferme équitable de la vallée de Chevreuse. De qui se moque-t-on? Plus c'est moche, plus c'est insipide, inodore, plus ça coûte bonbon le bio. Quel juteux business le bio, l'escroquerie du siècle. En musique d'ambiance, on diffuse du Michel Fugain, du Francis Cabrel. L'horreur absolue, un magasin bio, c'est l'antichambre de l'effroi sous cellophane. Rien que toutes ces étiquettes jésuites en rang d'oignon vous donnent la nausée. L'aubépine minceur, l'artichaut tonique cardiaque, la figue sèche respectueuse du sommeil. Ah, purifier, assainir, rafraîchir les entrailles, se réconcilier avec soi-même. Quelle marade, ces fioles d'huile essentielle, ces grappes de fruits secs, sans pesticides, bien sûr. Ah, les pesticides, c'est comme les Bosch, les Ruskoff et les Rosbif réunis pour les vestales du bio. Les pesticides, il faut les bouter au-delà de d'autres vieilles lignes Maginot. Le vertige vous prend devant une armada de rutabaga raplapla, navet naze, chourave en déshérence qui bien sûr protège le cœur, réveille la rate, réduisent le stress et améliore la concentration, riche en gamma G3 et en protéines évidemment. Bonjour les bobos gogo, bio et dégradable à la fois. Ils accourent de partout ces zombies aphasiques, le dimanche matin avec leurs petits paniers d'osier, comme des lemmings exsangues en procession citoyenne, glaner quelques graines de chanvre sous cellophane, du tournesol et de la courge en flocons, plein de magnésium bien sûr, de zinc, de polyphénol, autant de produits respectueux, quatre fois plus chers que chez la marchande de quatre saisons, tellement grassement azotée, elle. Une ardoise claironne, le poireau réduit la cellulite et le navet allège la prostate. Arrêtez, je m'étouffe de poilade. Bio, bon et sain, bio, con et vain. C'est l'arnaque du morlingue, oui. Oh, que ceux qui mangent bio affichent de drôles de têtes, des momies aztèques dans un train fantôme. Qu'est-ce qu'ils sont glauques, tous ces bipèdes somnambules et bêtés à force de zénitude dans l'épanouissement personnel, le bien-être du plexus et l'art de vivre sous cloche. Ah, si vous saviez, pauvre stockfish. Comme rien ne vaut les gueuletons, les bombances, les ripailles entre copains, les festins fraternels, les trognes enluminés des convives, le bon vin qui coule dans nos verres. Tiens, hier, voilà une chabraque sans âge, exhumée d'une séance de tai chi, qui n'a que les os sous la peau, sous son caraco fleuri avec des converses de midinette.
Elle essaye de reculer la mort de quelques saisons en venant acheter son petit feuilleté au pavot avec une tisane de pissenlit, la pauvresse. On aura envie de la goinfrer d'un bon steak saignant, de frites bien grasses avec un tsunami de Saint-Joseph et des profiteroles plein la dalle. Elle ne sait pas ce qu'elle perd, la miséreuse. Et dire qu'elle mourra en même temps que les autres, la brave prêtresse de la nutrition équitable, mais avec tellement plus d'ennuis au bout de sa fourchette.
Oh, il est magnifique ce pamphlet. Moi, je trouve qu'on était séduits, on vous regardait avec un sourire affectueux tous. Pourtant, certains d'entre nous aiment bien le bio. Hein. Je regarde Eva, moi-même, peut-être même Serge, hein, petite roquette plutôt bio que... Non ?
Jusqu'à maintenant, oui, mais là...
Et il vous a dégoûté ?
Ah bah oui, là, non. Michel Fugain et Cabrel, ça fait beaucoup.
Hein. Oh bah non, Cabrel, c'est pas...
Cabrel, d'abord, il est très beau. Et ensuite, si les légumes sont moches chez les magasins bio, c'est pas la faute à la production bio. C'est la faute au commerce. Parce qu'ils sont rapaces et ils veulent vendre ce qui est déjà défraîchi. Or, la première qualité du vivant, c'est la fraîcheur quand même, que ce
ben
soit
oui,
vivant.
Alors, elle vous dit que vous n'allez pas dans les bonnes boutiques.
Oui, il faut aller dans trois au moins pour faire ses courses, ça c'est sûr.
Il ne faudrait peut-être pas qu'ils mettent ce genre d'halogène sous les rues tabaga, parce que ça fait peur aux enfants.
Et puis les écolos ont fait fermer à Paris un restaurant qui s'était spécialisé dans le lapin, et qui s'était appelé le développement durable. Je trouvais ça formidable. Et eux, ils se sont opposés.
Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour. Dans les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Mais cette place est sans issue, je commence à comprendre. Ils ont refermé derrière moi, ils ont eu peur que je recule. Je vais bien finir par la voir, cette danseuse ridicule. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Andalousie, je me souviens, les prairies bordées de cactus. Je ne vais pas trembler devant ce pantin, ce Minus. Je vais l'attraper, lui et son chapeau, les faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. Est-ce que ce monde est sérieux? Non, 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 non. Sérieux. J'en ai poursuivi des fantômes, presque touché leur ballerine. Ils ont frappé fort dans mon cou pour que je m'incline. Ils sortent d'où ces acrobates avec leurs costumes de papier? J'ai jamais appris à me battre contre des poupées.
La corrida façon trio. Alors on quitte le bio, sujet sensible, pour s'intéresser à un échange de lettres entre trois drôles d'épistoliers. Le premier est représenté par Hervé Le Tellier. Et s'il écrit, eh bien c'est parce qu'il souhaite l'intervention d'un deuxième, ce sera Jacques Jouet, auprès d'un troisième rôle dévolu à Dominique Muller. Pourquoi passer par un intermédiaire, me direz-vous? Tout simplement, il n'ose pas faire sa demande directement, ou bien ce serait mal pris, ou bien le troisième ne l'apprécie pas. Bref, les raisons sont nombreuses, mais lui seul les connaît. Hervé Le Tellier, vous êtes donc à l'origine d'un échange de lettres. C'est vous qui nouez la situation, qui inventez les personnages de départ.
Oh, je ne les invente pas.
Ah bon?
Ouais, non.
Ils existent?
Oui, oui. Oh là.
Vous les piochez où?
Dans le classique. Je suis Rodrigue.
Ah oui.
Et j'écris à Pierre Corneille.
Oui, merci, vous avez senti un petit flottement.
Non, mais il y en a deux quand même. Il y a Thomas aussi.
Oui, évidemment.
Ouais. J'écris au frère. Ouais. Je me permets de vous écrire, cher Pierre, car je rencontre en ce moment un grave problème familial avec mon père. Et je pense que vous pouvez m'être d'une grande aide. Je vous la fais brève. Mon père vient de se disputer avec le père de ma fiancée. Je ne sais pas ce que Don Gormaz lui a dit. C'est sans importance au fond. De toute façon, il ne cesse pas de se chamailler. La dernière fois, c'était pour être au premier rang, à côté du roi, à la cathédrale, des vrais gamins. Bref, Don Diègue, c'est mon père, mais vous le savez déjà, je suis bête, puisque vous lui avez écrit son truc, là, au rage, au désespoir, au vieillesse ennemie. Franchement, monsieur Corneille, c'est bien tourné, si je puis me permettre. Et ceci dit, sans vouloir vous flatter. Donc, Don Diègue n'en démord pas. Il m'a demandé si j'avais du cœur. J'ai répondu oui pour m'en débarrasser. Et aussitôt, il m'a demandé d'aller provoquer en duel Don Gormaz pour le tuer, ni plus ni moins. Je n'invente rien. Très sincèrement, je dis non. Je ne veux ni aller, ni courir, ni voler, ni venger. Pour commencer, ce type Don Gormaz, c'est une sacrée pointure en matière d'escrime. Je l'ai vu à la salle d'armes. Il a beau être vétéran 3, à la fin de l'envoi, il touche. Hein. J'ai 9 chances sur 10 d'y passer, à moins d'un miracle. Et à supposer que justement, miracle, je lui fasse son affaire. Vous me voyez retourner voir ma fiancée après le combat ? Chérie, j'ai raccourci ton père ? Non mais, je vous laisse imaginer la scène, ça va être coton pour la reconquérir. Donc, reprenez ce personnage de Don Diègue. Il est soupolet, que vous n'avez pas idée, psychorigide, c'en est dingue, et excessif en tout. L'honneur, il a que ça à la bouche. Mais vous avez quel âge, Pierre ? 31 ans, je me trompe pas. Mais vous avez tout le temps. Vous la montrerez plus tard, votre capacité à traiter le thème de l'honneur, je ne sais pas. Par exemple, vous prendrez l'histoire de ce psychopathe romain, la Horace, qui trucide sa propre sœur parce qu'elle pleure son pauvre fiancé que lui-même vient d'assassiner, plutôt lâchement d'ailleurs, sur le champ de bataille. Ça, c'est du sujet. En plus, c'est de l'antique, c'est du solide, quoi. On n'est pas sur la Costa Brava. Ça peut se régler très bien entre deux tapas, cette querelle idiote. Je suis certain, mais absolument certain, qu'on pourrait en faire une petite comédie romantique. On se fiance avec Chimène, nos pères se disputent. On se marie, ils se disputent encore, vous voyez le truc, une sorte de running gag. Chimène est enceinte, ils s'engueulent sur le nom du gamin à venir, ça pourrait être sympa. Et à la fin, ils deviennent les meilleurs amis du monde. Il faut juste l'écrire comme ça, plus rose, vous voyez. Bon, le public, il aime ça, les happy ends. Ah, le roi m'appelle, il faut que je vous quitte. Je compte sur vous en tout cas, Rodrigue. PS. Tenez, le roi me demande, là, juste là, d'aller combattre les morts. Et je me demande si, avant qu'on soit 3000 en arrivant au port, je ne vais pas en profiter pour leur acheter un petit peu de leur herbe locale. Une petite pipe bien bourrée. Oh, ça le détendrait sûrement, mon père.
Eh ben, c'est un personnage qui a des bonnes idées. Oui. Parce que, après tout, cette histoire serait une comédie, ce serait aussi bien, non ?
Ce serait plus drôle, déjà, pour commencer, n'est-ce pas ?
Alors, évidemment, vous êtes impliqué dans l'histoire, Dominique, mais vous ne savez pas encore ce qui va vous arriver, parce que c'est Jacques Jouet, Pierre, qui reçoit ce courrier de Rodrigue. Et qu'est-ce qu'il en pense, Pierre ?
Ah, il est accablé, le pauvre Pierre.
Ah bon ? Ah oui.
Eh oui.
Pas d'accord ?
Ah non, pas du tout. Alors.
Ah, pourtant, ce sont des bonnes idées.
Non.
Non.
Non. Donc, alors, bah, vous... Il écrit à Don Diègue, il n'a pas trop le choix.
Évidemment, et Don Diègue, c'est un peu un rôle de composition, c'est pour Dominique
Müller.
Oui,
mais enfin, je le sens.
Ah, voilà. Oui. Tout bouillonne en vous.
Oui.
Mon cher Don Diègue, eh ben, je tombe de haut. J'avais pensé à toi pour ma pièce en me disant, voilà un homme d'un âge respectable, qui a vécu une vie honorable, qui a illustré une carrière militaire admirable. Ce serait bien le diable si la descendance d'un personnage à ce point incomparable ne soit pas à son niveau de réactivité tragico-comico-morale. Eh ben, mon vieux Don Diègue, je dois en rabattre. Et ce n'est pas pour me satisfaire, je te prie de croire. Du point de vue de la paternité, tu es nul. Tu as été incapable de pondre sous toi un fils accommodant. Voilà un Rodrigue sans honneur, sans souci de son ascendance, incapable d'accepter l'indémerdabilité d'un bon dilemme.
Il parle bien, quand même.
Bref, c'est un jeune.
Ouais. Bah oui.
Il me demande, tu sais quoi ? De te convaincre de faire ami-ami avec Don Gormaz autour d'une petite fumette. Et puis quoi encore ? Don Diègue n'accepte aucun bonbon soi-disant à la menthe que te proposerait ton fils.
n'accepte aucune taffe de cigarette ou de pipe qui circulerait autour d'un feu de camp en écoutant Ravi Shankar. Méfie-toi, Don Diego, on n'est jamais trahi que par les siens. Mais ce n'est pas tout. Puisque Rodrigue refuse la tragicomédie dont il est le héros pour la transformer en comédie américaine à la « Bite me the nut
». What? Could you repeat again, please?
Alors, moi, je peux traduire, si vous voulez.
The nut, c'est le mot que je ne comprenais pas.
Knot, hein, knot. Ça s'écrit knot, mais on m'a dit qu'il fallait prononcer not.
Oui, mais c'est plus clair avec knot.
Donc, une comédie américaine à la « Bite me the nut ». Prenons ensemble le contre-pied. Faisons au contraire une bonne tragédie de chez Tragédie. Don Rodrigue va t'envoyer sur les roses quand tu vas lui dicter son devoir. Qu'à cela ne tienne, prépare-toi, ni une ni deux, et sans tergiverser, tu lui décoches un bon coup de pertuisane en pleine face, ou dans le dos, comme tu veux, et on verra les conséquences que ça aura sur l'intrigue. Peut-être pourrais-tu dans la foulée faire du gringue à Chimène, un peu comme Richard III à Lady Anne, si tu vois ce que je veux dire. Je ne vois pas pourquoi il y aurait que les Anglais pour mettre de pareilles horreurs sur la scène. Enfin quoi, est-ce que je ne suis pas normand, moi aussi? Ton Corneille.
Bah, c'est envoyé, hein, il est très direct.
Ah oui. Ça, on je peut pense pas, que la pièce va changer de titre. Hein.
Oui.
Ça va s'appeler Don Diego.
C'est un rôle en or qui vous arrive, Dominique Müller.
Oh, Don si Diego, l'on peut dire.
Une fois dans sa vie, quand même.
Oui, mais je ne suis pas si contente que ça. Moi qui n'ai pas vu la première lettre et qui n'ai eu que la seconde, je suis même un peu outrée, quand même. Parce que de quoi il se mêle, ce Corneille?
C'est vrai, il est un peu intrusif.
Ah, très intrusif.
Ouais, ouais. Donc vous écrivez à qui, vous?
À Sigmund.
Freud.
Mon cher Sigmund.
Sigi.
Sigi, si vous voulez. Ouais. Non, en fait, tout de même. Sigmund, il n'est pas si familier que ça. Mon cher Sigmund, j'espère que vous avez été content de vos vacances sur la Costa Brava et de notre bed and breakfast, où Monsieur Shakespeare s'est tant plu qu'il y a écrit plusieurs comédies musicales à grand succès. Je vous écris pour vous demander conseil. J'ai un client français qui se prend lui aussi pour un dramaturge. Mon B&B est très apprécié des artistes depuis que Bob Dylan y a raconté ses tripes visionnaires dans une chanson. Et qui, pour cette raison, met la zizanie dans notre famille. Il cherche, je crois, des tranches de vie bien sanglantes à raconter, genre crime et châtiment. C'est moqué Monsieur Dostoïevski qui faisait le mort au bridge quand vous étiez là, si vous vous rappelez. Voilà la situation. Mon Rodrigue, qui n'est pas très fut-fut, croit vraiment, intoxiqué par les mensonges et le reste de Monsieur Corneille, que je lui demande de tuer Don Gormaz, mon plus vieil ami et père de la fiancée de mon fils de surcroît. Il s'agit bien sûr d'une simple hyperbole langagière. Nous sommes dans le sud, que diable. Je lui demande de prendre ma revanche lors d'une partie de cartes et voilà tout. Je déteste perdre aux cartes et encore moins me faire moquer par Monsieur Brun, un autre client, quand Don Gormaz triche. Mais ce petit freluquet n'en démord pas. Il est convaincu que je veux lui pourrir la vie. Vieux conflit des générations, ce n'est pas à vous que je l'apprendrai, cher Sigmund. Le séparer de sa fiancée, qui, je vous l'assure, sera une adorable directrice de B&B. Toutes ces fadaises à cause de Monsieur Corneille, qui n'a aucune imagination et cherche le conflit autour de lui pour le retranscrire fidèlement sur le papier. Je crois que ce type a un complexe, et même plusieurs dont je ne connais pas les noms, mais ça c'est votre parti. Je crois aussi que, l'air de ne pas y toucher, il fournit Rodrigue en psychotropes divers et variés, en attendant de voir s'il va sortir de ses gonds. Je vous dis ça car j'ai vu de mes yeux Monsieur Shakespeare droguer le jeune Hamlet qui s'est mis à voir des squelettes dans tous les coins. Bref, Monsieur Sigmund, revenez vite. Vous êtes bien entendu mon invité. Il y aura comme autres hôtes Monsieur Corneille, Monsieur Dostoïevski, Monsieur Hercule Poirot, qui, paraît-il, s'y entendent tous deux à débrouiller les histoires tordues, mais moins que vous, bien sûr, rendons à César, etc. Nous jouerons aux cartes, comme toujours, et vous laisserons gagner. Si vous pouviez, entre quatre yeux, parler à Rodrigue, lui expliquer le complexe d'Oedipe et tout ça, je vous en serais éternellement reconnaissant. Figurez-vous que ce petit con veut prendre la mer à présent. Et qui s'occupera du bed and breakfast, si ce n'est lui, Chimène et leurs futurs enfants? Je vous joins deux billets d'avion. Il fait encore très beau sur la Costa Brava. Venez donc avec Marie Bonaparte. Elle pourra discuter avec Chimène entre femmes. Très cordialement, Don Diego.
Il est sympa, ce bed and breakfast. Très, très bien fréquenté.
Mais je vous dis, c'est pas facile de tenir un petit hôtel sur la Costa Brava. Moi, je n'en demande pas davantage.
Non, mais ce qui est bien, c'est qu'avec vous, Dominique Müller, Don Diego, on découvre que la famille avait une entreprise commerciale.
Bah oui, et ça, après tout, avec Corneille, on le savait pas. Il n'en parle jamais, mais bien sûr.
Il n'en parle pas.
Ah, un peu raciste quand même. Interdit aux morts, je ne trouve pas ça sympa.
Il manque un peu Sherlock Holmes, hein, mais peut-être qu'il a postulé, il n'y avait pas de chambre libre.
Il ne vient pas à la même saison.
Oui, c'est un petit côté, l'assassin Bito 21.
Oui,
c'est une petite pension de famille.
Oui, oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire, Patrice?
Je pense que ça va les intéresser. Surtout qu'il y a des histoires pour Freud de cocaïne et effectivement pour Sherlock Holmes aussi de cocaïne.
Aussi
de,
mais oui,
donc ça devrait l'attirer aussi dans ce nid de guêpe, si je puis dire.
Mais vous savez, il y a par-ci par-là des hôtels mythiques. Il y en a à New York dont c'était l'Alguin con ou un truc comme ça.
Ah ouais.
L'Algonquin.
C'est presque pareil.
Non, mais vous l'aviez dans le désordre,
le Chelsea Hotel, des choses comme ça, voilà.
Ya están muy lejos las vacaciones, lo dice el viento que viene y va. De nuestro amor solo quedan ya recuerdos que mueve el viento sin descansar. La brisa queda flotando siempre, las hojas mueren con nuestro amor. El mismo aire del verano hoy me dice que ya no existe nuestra ilusión.
Aire que se mueve. Je n'ai pas fait espagnol en LV2, mais Sylvie Vartan, oui.
Ma guarda, sono i papolini nella testa e tutto è su Francesca Cultura.
Et Jean-Bernard Pouy parle un italien parfait. Vous êtes sur France Culture avec les papous dans la tête. Et c'est l'heure de la pub, mais pub papou, donc particulière, culturelle forcément, décalé absolument par un spécialiste du genre, Patrice Caumont. Patrice Caumont, son cœur balance entre l'aquarelle, ce souvenir de sa série pour nos papous dans la tête, l'aquarelliste distingué, entre la philo et la pub, domaine dans lequel il a longtemps travaillé, surtout sur l'image, les logos. On rejoint l'aquarelle et la boucle est bouclée. Une page de Publipapoucité, donc par Patrice Caumont, avec Eva Almassière, Velletelier, Lucas Fournier et Jeanne Carillon.
Kafka au bégon, cafard moribond, Kafka au bégon, Kafka c'est tout bon.
Méfiez-vous de la fin des beaux jours, car elle annonce la rentrée. Fini les cas lanques. Bonjour les parcas et les cas bancs.
Et c'est le cas pour tout le monde, y compris les cafards aussi frileux qu'importuns, car la blatte est à l'hiver ce que la fourmi est à l'été.
Oui, bientôt toutes ces sales petites bêtes qui se doraient les litres en extérieur jour vont changer de décor et envahir votre studio pour tourner en intérieur nuit et faire de la figuration dans vos armoires, car les cafards se donnent à fond de tiroir et dans leur rôle.
Cafard, c'est la seule profession où mise au placard rime avec promotion.
Prenez garde à ces monstres, un coup d'interrupteur et c'est l'irruption de ces vampires qui ne supportent pas la lumière.
Dès que tout s'éteint, leur désir s'allume et pour les cancrelats, le festin commence.
Et festin, c'est peu dire, car chez ces phénomènes des phéromones, ces fiestas, bacchanales et orgies où l'on croise les pattes pour passer à l'antenne.
Toutes ces bébêtes qui montent, jouent au-delà du raisonnable à la bête à deux dos et ne font que croître en métamorphosant votre piano de cuisine en table de multiplication.
Alors, en Kafka d'urgence, utilisez plutôt la bombe K de Grégoire Samsa, et constatez vous-même la métamorphose de votre intérieur.
Samsa au bégon, cafard moribond, Samsa c'est béton, Samsa c'est tout bon.
Avec la bombe K, plus de cafard dans le cacao. Fini la calamité du carabe qui cavale sous le canapé ou du scarabée noir comme Zan qui joue à cache-cache dans les cachous.
Mise au point à Prague, elle éliminera la vermine d'un inexorable
En tchèque signifie littéralement « crève punaise ».
Et dans le cas d'espèce, la sale espèce est condamnée par K, sans autre forme de procès.
Il n'y a pas qu'à Prague que le karma du cafard est calciné. Chez vous, même le cador des cafards, même le plus kamikaze des kafkaïens cafardeux, avec la bombe K, se retrouvera KO sur le carreau.
La blatte fatiguée et le cancre, là, renoncent à forniquer sur votre formica.
Pas de culpabilité pour l'emploi de cette bombe, pas de cabale. Elle est suffocante, oppressante et même expectorante, mais elle ne gêne en aucun cas la sacrée couche d'ozone.
Une robe de juge, comme un bourreau qui lâche les chiens pour tout procès. Et devant, comme un échafaud, la loi du père qui fait trembler. C'est Kafka, une milléna qui hante ses nuits. Vrai cauchemar plein de cafards, devant la femme, sans cesse il fuit, et puis il tousse en vrai tuba. C'est Kafka, c'est Kafka, c'est Kafka, c'est Kafka. Un château qu'on cherche, sans espoir, et l'Amérique, beaucoup trop loin. À Prague, il drague son fleuve noir, combat douteux et sans témoin, c'est Kafka. Même s'il voit pas la vie en rose, son humour froid comme une lame, en papillon se métamorphose, que le vrai brûle comme une flamme. C'est Kafka, c'est Kafka, c'est Kafka, c'est Kafka.
Vous écoutez France Culture, des papous dans la tête. Au micro, Françoise Trossard et la bande des papous du jour. À suivre, le petit rimailleur illustré. Et 10 mots pour des histoires avec Patrice Delbourg, Patrick Beignet, Odile Conseil, Jacques Bertrand et Lucas Fournier. Donc, le petit rimailleur illustré ou dico papou en vers de la langue française, un dico où tous les mots font l'objet d'une définition, subjective peut-être, mais a priori complète, sous forme de poème à dire ou à chanter. Alexandrin, Deca, Octo, boule de neige, toutes les formes sont les bienvenues. La séance est ouverte. Jacques Jouet, je vous ai imposé, on peut dire ça comme ça, parce que c'est peut-être pas un mot très agréable, c'est le mot poubelle.
Oh, je ne déteste
traiter.
Pas ce mot.
Vous
ne
le détestez
oui, oui.
pas
hein? Non.
Bon, Serge Joncourt, vous voulez bien vérifier les dires de Jacques Jouet dans notre dictionnaire. Est-ce que vous avez trouvé la poubelle dans le dictionnaire?
Il y a une poubelle dans le dictionnaire, oui.
Oui, oui. Elle est longue,
elle est pleine.
Elle n'est pas très pleine, hein,
non,
d'après mes souvenirs.
Là, oui,
comment vous traitez la poubelle
Mais j'essaie de l'honorer avec le grand vers français.
Oui.
L'Alexandrin.
Évidemment, oui.
Et ça ne sera pas un poème. Ce serait plus juste de dire que ce sera une tirade.
Oui. Mais très bien.
Bon appétit, messieurs. Ô convives repus, qui fumez en parlant vos cigares qui puent. Vous avez bien mangé la soupe et la dorade, le gigot flageolet, l'asperge, la brandade. Vous avez salopé la serviette en papier, c'est normal. Vous avez honoré le tripier, dévoré la pintade et croqué la génisse. Il reste quelques os sur la nappe qui plisse. Ce n'est pas une affaire. En avant l'entremets, les croûtes de fromage, à cette heure ou jamais, peuvent bien demeurer dans un coin de l'assiette. Laissez sécher partout les croûtons et les miettes. Apparemment c'est bon, vous en avez assez. Je ne sais pas encore qui va débarrasser. Mais qui que ce sera, pensez à la poubelle. On ne la remplit pas de façon criminelle, en balançant en vrac les différents déchets, sans réfléchir un peu, fourrant tout en paquet. en souvenir ému du préfet éponyme. Il faut considérer que cet acte sublime, remplir une poubelle, obéit à des lois auxquelles obéiront vos plusieurs fois 10 doigts. Car vous le nourrissez, ce pauvre sac poubelle. C'est ça qu'il faut savoir avant qu'on se rebelle. Omnivore, d'accord, on ne peut l'être plus. Il est peu difficile et pas de superflus. Pour elle, pour autant, la façon généreuse de la remplir exige un ordre des denrées. Commencez, s'il vous plaît, par jeter les entrées, le reste de radis ou de pâté en croûte. Et ne balancez pas les fruits avant la tourte. Qu'un repas normal, sain, ordonné, complet, votre brave poubelle est droit, quoi, s'il vous plaît. Si vous ne le faites pas, au lieu de la descendre, c'est vous qui descendrez comme un paquet de cendres. C'est vous qui descendrez, non des parents, mais d'elle. C'est vous qui descendrez de la pauvre poubelle et serez balancé comme un trognon de poire dans celle de l'histoire.
Oh là là, fou, ça donne des frissons, hein.
C'est hugolien.
C'est hugolien et il y a de la tendresse pour la poubelle, c'est exact. Serge Joncourt, alors vous avez travaillé pendant que Jacques disait sa tirade, vous avez travaillé les yeux collés dans le dictionnaire, il n'y a pas d'oubli.
Si. Non, enfin, disons que, vous savez, c'était tellement garni que... De certaine façon, je faisais les poubelles de son texte. Quoi. Je,
oui.
J'essayais de gratter par une sorte de tri sélectif.
Oui. Alors,
bon, probablement, faire les poubelles m'a échappé, très probablement, la locution, mais c'est très, tout à fait possible. Il manque une petite.
Non, c'est question que de ça.
Oui, enfin, mais en même temps, oui. Mais bon.
Ah oui, il était plus question de la remplir que de la
vider.
Oui, qu'importe. Ouais. Qu'importe ouais. Oui. Et puis, bon, alors, au sens figuré, une sorte de. On pourrait dire une locution, c'est une voiture en mauvais état.
Ah oui.
Ce qui nous vaut une citation qui n'est pas.
Signé.
Oui, qui n'est pas référencé. Tu l'avances, ta poubelle.
Ah oui.
C'est une belle citation, je trouve, qui mériterait.
C'est Jean-Yann, ça.
Ça pourrait.
C'est pas Victor Hugo, c'est sûr.
Quanto tempo devo esperar? Quanto tempo mais? Si. Devo esperar e quanto tempo mais? E se me trata mal, vai ter que me pagar.
Dernière séquence de ce numéro du Papou dans la tête sur France Culture. 10 mots pour des histoires. Des mots choisis par les Papous, Patrice Delbourg, Odile Conseil, Patrick Beignet, Jacques Abertrand et Lucas Fournier. 10 mots avec lesquels chacun imaginera une histoire en prose ou en vers, selon envie, et en soulignant les mots à leur passage par la fameuse grenouille des Papous. Une histoire courte, attention, il serait trop facile de glisser 10 mots dans une histoire de 10 pages. Non, ce jeu n'est pas si simple qu'il peut en avoir l'air de prime abord. D'ailleurs, vous allez jouer vous aussi à raconter des histoires dans lesquelles les 10 mots joueront un rôle. Vous écrivez et vous postez vos textes sur notre page Facebook. On adore vous lire. À suivre donc. Et je vous demande un premier mot, Patrice Delbourg.
Je l'ai sous les yeux.
Patrick Beignet ?
Non, juste derrière. Strapontin.
Strapontin, très joli mot, strapontin.
Très bien.
Vous avez droit à 2 refus, à condition que tout le monde soit d'accord. Odile Conseil ?
Méduse, qui peut être aussi un verbe conjugué, éventuellement.
Ce sera il ou elle méduse. Mais ce ne sera pas médusé, on est d'accord.
Oui, mais ça peut être une méduse aussi.
Ça peut être une méduse, oui. Lucas Fournier ?
Vertugadin.
Ah, quoi. C'est un mot qui sort de temps en temps à ce jeu. Pourriez réexpliquer un petit peu ce que sont ou ce qu'est un vertugadin ? C'est toujours pluriel ou pas ?
C'est singulier.
Non, c'est singulier.
C'est cette pièce de vêtement qui permet aux femmes en Espagne, par exemple, de bouffer un petit peu. Oui.
Voilà. C'est ça. C'est
d'élargir leur...
Vulgairement appelé faux cul.
Voilà.
Ça donne ce qu'on appelle les robes à panier.
Oui.
Patrick Beignet, votre mot ?
Cabotage.
Cabotage, bon, on a la méduse, on est dans la mer, oui. Mmh. Enfin, on peut caboter en rivière, je suppose. Mmh. Jacques Abertrand.
Patogas.
Patogas, oui. Alors, ces cinq premiers mots vous conviennent? Strapontin, méduse, vertugadin, cabotage, patogas, on garde tout. Mmh. Un verbe, Patrice Delbourg.
Baritonner.
C'est-à-dire chanter.
Chanter comme un baryton.
Mais bien ou oui. Mal, peu importe.
Ou dans le ton de Barry.
Après, Odile.
Je vous propose un autre verbe, tanguer.
Tanguer. On prend toujours, pas de refus.
Tanguer, méduse, cabotage. Enfin,
ça va un peu dans le sens.
On voit, on nous emmène. Hein.
Mmh. Ouais, oui.
Moi, je vous ramène à terre, si vous voulez.
Allez. Oui, s'il vous plaît.
Courgette.
Oui, évidemment. Remarquez, c'est bien d'en avoir sur les bateaux pour éviter le scorbut, non? Avec des pommes.
C'est la courgette, c'est pas
il y a, mieux, ouais. Y a mieux que la courgette pour éviter le scorbut.
Ça ne comporte pas assez de vitamine C.
De vitamine C,
c'est...
Vitamine C. Je ne sais pas.
Pas. Donc, ce que vous avez contre la courgette, enfin. Patrick Beignet.
Tartarinade.
Ah, très bien. Ah, ben, peut-être expliquer voilà. Ce que ça veut dire
oui,
aux jeunes
plaît.
Générations.
Oui, qui n'ont pas lu Tartarin de Tarascon. Jacques Abertrand, expliquez.
Ben, c'est une espèce de façon de se vanter à la façon de Tartarin de Tarascon.
Bravo.
Une rodomontade.
Voilà, très bien. Et votre mot à vous, Jacques Abertrand?
Sac à dos.
Ah, très bien.
Sac à dos, très bien. Si ces mots vous conviennent, on les garde, oui? Alors, strapontin, méduse, vertugadin, cabotage, patogas, baritonnet, tanguay, courgette, tartarinade et sac à dos. Et vous êtes très nombreux à jouer avec ces mots, donc il faudra détourner pour qu'on n'ait pas la même histoire. Je vous ai regardé en train d'écrire. Vous étiez beau, il y avait de l'ardeur, de la joie de créer des histoires. C'était magnifique, ça s'est bien passé, Patrice.
Ça s'est passé assez gentiment, oui.
Oui,
oui, oui. Oui.
Alors, on va demander à Odile Conseil de nous rappeler les 10 mots en jeu.
Je vais commencer par la fin pour varier les plaisirs. Sac à dos, tartarinade, courgette, tanguay, baritonnet, patogas, cabotage, vertugadin, méduse... Et strapontin.
Patrick Beignet, est-ce que vous avez attrapé ces mots dans l'ordre ou dans le désordre en remontant, comme vient de le faire Odile Conseil, ou pas du tout?
Écoutez, je ne suis pas du tout quoi.
Enfin, dans n'importe quel ordre, je veux dire, ni montant ni descendant.
Écoutez, je pense que ce n'est pas dans l'ordre, ou alors c'est contre mon gré.
Bon, très bien. Et quel est le mot qui vous a donné envie de vous pencher ou de vous épancher sur une histoire?
Une intéressante question, c'est sûrement pas courgette en tout cas.
Ah bon?
Non. Ouais. C'est peut-être baritonnet.
Ah, très bien. Vous allez jouer avec la grenouille, je vous l'attends. Pour souligner le passage des mots dans votre histoire. Elle porte un titre, l'histoire?
Oui, un beau titre, Un rêve écroulé.
C'est très très beau.
Oh, il y a un roman de Kesserling là.
Oui, ou de Joseph Conrad, ouais. Non
ouais. Je ne vise pas si haut quand même. J'avais toujours pensé que Madeleine chanterait un jour des rôles travestis d'opéras anciens, des rôles héroïques où sa voix de mezzo baritonnante ferait merveille. Sa haute taille, son admirable visage de méduse exaltée, en ferait un parfait héros chevaleresque dans un opéra de Handel ou de Vivaldi. Et je me disais que tapis sur un strapontin, je l'applaudirais dans les plus grandes salles du monde. Hélas, quand l'occasion lui fut enfin donnée d'abandonner le vertugadin, ce fut dans une mise en scène moderne particulièrement imbécile. Roland, au lieu d'armure, portait des patogas de velours vert et un sac.
Tu vas te faire mal.
La grenouille est rétive. Et un sac à dos empli de 5 kilos de courgettes. Et le poids des courgettes la faisait tanguer. Au lieu d'une nef héroïque menant Roland à l'assaut des Sarrasins, c'était un minable esquif tout au plus capable de faire du cabotage. Quel écroulement de notre rêve artistique commun. Une fois de plus, les tartarinades de la mise en scène moderne avaient frappé. Quelle plaie.
Ah, je reconnaissais bien là une mise en scène très contemporaine. Et oui.
Vous en faites vous aussi?
Non, j'en fais pas, mais il m'arrive d'en voir et de penser un peu comme vous. On va passer la grenouille à Patrice Delbourg. Vous voulez bien, Jacques, lui transmettre?
Oh, mais avec plaisir.
Voilà.
J'adore passer que... des grenouilles à Patrice.
On a un véritable défilé d'histoires avec ces 10 mots. Et je suis bien certaine qu'elles seront toutes très différentes. Parce que d'abord, Patrice Delbourg est quelqu'un de très différent de Patrick Beignet. Vous n'êtes pas allé sur ses traces de mise en scène?
Non.
Non.
Non, j'ai pas été au théâtre depuis 40 ans maintenant.
Ah bon? Ah oui, quand même.
Donc,
oui.
Je n'ai pas d'a priori sur le sujet.
Et vous avez eu envie de
mais
nous parler de
quoi? Mais
je
vais au musical, en revanche, souvent.
Oui.
Donc, c'est un texte qui s'appelle « Une soirée au musical ».
Oui.
Ah, mes amis, quelle soirée! Moi, j'aime le musical, mais pas ceux qui y vont. Il y a de ces sans-gêne, c'est vrai quoi. J'avais pourtant retenu ma place 5 semaines à l'avance au théâtre La Vieille Méduse, boulevard Poissonnière, pour assister au tour de chant de mon cher André Claveau.
Oh là là.
À l'occasion de la sortie de son dernier 33 tours, La saison des courgettes, un pot-pourri de ses plus belles romances, coruscantes et très printanières. Peine perdue, je n'ai hérité que d'un strapontin rouge, élimé, excentré sur la gauche. Oui, sur la gauche en plus. J'ai vu tout le spectacle d'André sur une fesse, la nuque brisée et mes lombaires en marmelade. Devant moi, au mezzanine, une spectatrice culottée avait cru bon de garder son chapeau avec des agaves et des ananas, et sa voisine faisait emmousser son vertugadin que les deux choristes de M. Claveau mettaient masqués dans la proportion d'un tiers.
Ah, ça fait beaucoup, oui.
Si c'est pas malheureux, un tel manque de citoyenneté. Quand mon chanteur a entonné « Domino, domino, que j'aime tant !» Voilà pas qu'un grand escogriffe derrière moi a commencé à baritonner en même temps les paroles. Domino, domino, le printemps chante en moi, Dominique. Mais il s'acharnait, le bougre, et encore, j'ai besoin de toi, de tes mains sur moi, de ton corps doux et chaud, j'ai envie d'être aimé, domino. Et moi, j'avais envie de partir, une place à 70 francs, messieurs, dames, quelle pitié. Autant jeter l'argent par les fenêtres. Et ce n'est pas tout. Des jeunes, faisaient tanguer toute ma rangée de sièges comme si on était à un concert dédié à Hallyday ou Geek Michel. Faut respecter la chanson française, s'il vous plaît. Mais je ne vous ai pas tout dit encore. À l'entracte, pendant que l'association La Roue Tourne vendait aux spectateurs des foulards dédicacés par Mathéel Thierry et Jean Sablon, belle initiative, en vérité. Un grossier personnage est venu se livrer à diverses tartarinades, plus ou moins salaces, devant les travées pour montrer qu'il avait la graine d'un fantaisiste. Il y a des mornifs qui se perdent. Devant moi, un petit gommeux, habillé à la décrochez-moi ça, a étendu ses jambes sur le dossier opposé. Faut pas se gêner. J'ai eu 2 gros patogas dans mon champ de vision pendant toute la seconde partie du récital. Ça dessinait à M. Claveau 2 grosses oreilles de Mickey de part et d'autre de son visage. Sacrée soirée, oui vraiment, sacrée soirée. Et je ne parle pas du sac à dos de ce boy scout attardé posé sur une console qui m'a masqué le si harmonieux orchestre de Redaker, venu tout spécialement accompagner M. Claveau lors de ce gala exceptionnel à la Vieille Méduse. Dimanche prochain, j'irai m'adonner un petit cabotage indolent jusqu'au Chalet des Îles pour oublier toutes ces indélicatesses. Et pour le prochain récital de Jacqueline François, je retiendrai une loge 6 mois à l'avance.
Et pour Patachou, alors, qu'est-ce que vous allez faire? Il a une nostalgie du musical des années, là, c'est début 60, parce qu'on voit apparaître Michel.
Même 50,
on
peut dire avant, c'est même 50.
Donc 70 francs, c'est des anciens francs.
Ah oui, c'est des francs avant le nouveau franc.
Oui, mais votre personnage dit qu'il voit apparaître Eddie Mitchell et Johnny Hallyday, c'est quand
59.
Même... 59. Déjà
58, 59.
Ah oui.
Eh oui.
Et Clavaux a disparu.
Et Clavaux
quand
disparaît
je veux dire
au moment bizarrement où Johnny arrive. Et
ils ont le même âge aujourd'hui.
Jacques Abertrand, je suppose qu'on n'est pas du tout dans cet univers. André Clavaux, vous aimez bien aussi la chanson française.
Oui, non, j'aime bien la chanson en général, oui. Oui. Enfin, ça n'aimait pas toutes les chansons.
Et même contemporaine. Vous êtes plus contemporain que Patrice Delbourg dans vos goûts.
Je suis de moins en moins contemporain.
Ah bon, attrapez la grenouille. Quel est le mot qui vous a donné envie d'écrire, là?
Vertugadin.
Ah ben, c'était pas évident, hein, quand même.
Vertugadin.
Et donc, votre récit se situe il y a un certain temps?
Non, cette année.
Ah bon, parce qu'on en porte assez peu, des
cette
Vertugadins,
année, c'est
maintenant.
C'est un petit article de journal.
Dans quoi?
Dans Le Parisien aujourd'hui.
Ah oui, c'est vous qui l'avez écrit. Je savais pas, vous prenez un pseudonyme quand vous écrivez pour eux, c'est ça?
Oui.
D'accord.
C'est intitulé « Des échos du bal des débutantes ». Cette année, le traditionnel bal des débutantes a encore connu un joli succès. De charmantes jeunes femmes, rehaussées de Vertugadin, ce qui leur donnait un petit air de méduse, valsèrent jusqu'au vertige et tanguèrent de hardi tango. Leurs cavaliers les firent tourner autour de la salle de bal dans une sorte de cabotage festif. Naturellement, comme chaque année également, certaines jeunes filles trop modestes, trop timides ou trop peu expérimentées firent toute la soirée tapisserie sur des strapontins. On répéta à l'envi, voire on le baritonna à la ronde. Le bon mot de l'une d'elles, qui ne connaissait vraisemblablement ni Daudet ni Tarascon, « J'ai un petit creux », avait-elle dit, « je mangerais bien une tartarinade ». Elle se vit traitée de courgette.
Oh, c'est pas très gentil.
C'est-à-dire de petite sotte.
Oui.
Petite courge.
Ouais.
Par un danseur qui dansait comme un patogas, c'est-à-dire comme un pied. Les temps changent, cependant, et l'éducation n'est plus ce qu'elle était. Le sac à dos déposé au vestiaire par notre photographe a été dérobé par un triste individu qui n'était certainement pas un débutant.
Ça existe toujours, le bal des débutantes?
Oh, j'espère bien.
Ouais.
Sinon, j'ai encore fait une bourde.
En tout cas, ils écrivent très bien aux Parisiens. Je vais le lire plus souvent. Vous écoutez France Culture, des papous dans la tête, et nous jouons à 10 mots pour des histoires. On continue. Confiez la grenouille à Odile Conseil. C'est à vous, Odile, de raconter une histoire, peut-être poétique d'ailleurs, je ne sais pas, avec ces mêmes 10 mots.
Une petite forme poétique, oui, mais très, très libre, très non rimée, très tout ce que
vous voulez. C'est quand même poétique.
Disons que ça s'appelle « Pour faire le portrait d'une méduse », ce qui induit un peu une notion poétique.
Ça rappelle quelqu'un, oui.
« Pour faire le portrait d'une méduse, trouve d'abord une méduse. Ça n'est pas le plus difficile, c'est même facile, de plus en plus. La méduse se rencontre parfois au restaurant, asiatique exclusivement, mais coupée en morceaux, en lanières, avec ici et là des rondelles de courgettes, s'en saisir pour un portrait pointilliste seulement. La méduse se croise à la plage. Elle gît, flasque et molle, entre les tongs des vacanciers, les patogas des randonneurs, les parasols qui s'envolent, les sacs à dos pleins de jouets. Cette méduse-là fera une nature morte. Pour faire le portrait d'une méduse, allez plutôt en mer, nue comme un ver, comme Adam extrait de la glaise, comme Vénus au coquillage, foin de Vertugadin, crinoline, haute chose, poulaine ou patogas. Emprunte une périssoire, un doris, une barque, n'importe quoi qui flotte, qui fait du cabotage. Choisis plutôt un jour où le vent baritonne, où Éole fait tanguer jusqu'au toit des montagnes, où la tempête immense déprime tous ceux de l'océan, poissons et bigorneaux, cétacés et méduses. Les méduses les plus désespérées sont les méduses les plus belles. Alors choisis-en une et brosse son portrait avec tendresse et modestie. La méduse s'accorde peu à la tartarinade. Toutefois, en marinade, elle peut être goûteuse. La leçon est finie. Quittez vos strapontins. Demain, je vous dirai tout ce qu'il faut savoir pour faire le portrait d'une courgette.
Bravo,
c'est SVT, c'est le cours de SVT.
Oui, et je trouve qu'elle fait particulièrement bien la grenouille. Dis le conseil.
Je veux bien, si vous voulez, la prochaine fois, ne faire que ça. C'est préposé à la grenouille.
Non, mais je pense que Lucas va faire aussi bien. La barre est haute avec
Fédil. C'est pas sûr.
Oui. Alors, vous attrapez l'histoire par quel mot ?
Par la courgette, justement.
Mmh. Belle transition.
Et c'est une petite page d'histoire que je voudrais vous relater. Ça s'appelle « La courgette de Newton », un épisode peu connu. Le 27e de mai 1697, Sir Isaac Newton avait déjeuné de bon appétit au pub de La Méduse, à Euston-sur-Gladys, dans le Hampshire. On ne connaît pas, hélas, l'exact menu. Il entreprit de faire une digestive promenade dans l'anglaise campagne si étincelante au printemps. Ses vieux patogas s'enfonçaient dans l'humide gazon sous le paisible regard des britanniques vaches. Isaac eut l'impression de voir l'horizon tanguer gentiment. « J'aurais dû arrêter à 11 pintes, qui est un nombre premier, pensa-t-il. » Il voulut s'asseoir, mais malgré la qualité de la britannique campagne, il ne trouva ni fauteuil ni...
strapontin.
Merci. Et se résolut à poser son...
vertugadin. Hein.
Sac à dos. Non, écoutez, alors là, ou alors c'est une révélation historique, mais il avait plutôt un sac à dos. Sur le sol, à l'ombre d'un pommier. L'ombre n'était pas nécessaire car il pleut dans le Hampshire. À peine s'était-il endormi là qu'il reçut sur la tête une courgette tombée de l'arbre. « Oh my God !» cria-t-il. « Une courgette alors que je suis sous un pommier. N'est-il pas un étrange phénomène ?» Après un bref cabotage intellectuel, Isaac Newton comprit. « Eureka ! Une courgette sous un pommier !» Et il élabora aussitôt la géniale théorie de la relativité. Oui, celle dont Einstein, dans une obscène tartarinade, baritonna 2 siècles plus tard la paternité. Puis, heureux de cette découverte, Isaac Newton se rendormit. Malencontreusement, une pomme golden, cette fois-ci, lui tomba réellement sur la tête, provoquant dans son cerveau une sorte de vertugadin de matière grise qui lui fit oublier au réveil qu'il avait lui-même découvert juste avant la théorie de la relativité. Au lieu de quoi, il se contenta de découvrir la théorie de la gravité. La science avait donc relativement reculé et avancé le même jour. Il se remit à pleuvoir et Isaac se dit qu'il était relativement plus avisé de s'humidifier le gosier au pub de la Méduse de Euston-sur-Gladys.
On sent la traduction, hein. Il y a plein d'anglicismes.
Oui.
Patrick Beignet, vous étiez au départ de ce flot d'histoires des 10 mots. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce qui vous a suivi ?
Le plus grand bien. Ces trucs, le strapontin avait un certain pouvoir magnétique entre mon texte et celui de Patrice Delbourg. Quoi qu'il en ait dit, il y avait beaucoup de points communs qui étaient engendrés par le seul strapontin.
Eh oui, c'est le pouvoir du strapontin, oui.
Mot italien, je crois.
C'est au concert de Beco qu'on cassait les strapontins,
oui,
non ?
Oui, c'est tout, c'est le fauteuil.
Oh, des fauteuils, des strapontins, des mezzanines. Au balcon aussi, on cassait un peu partout. Et puis, il cassait son piano sur scène aussi.
Ah oui ?
Gilbert, bien sûr.
Vous avez vu ça ?
J'ai pas vu ça, hélas. Je l'ai rarement vu sur scène, Beco. Je regrette un peu, d'ailleurs.
Et vous, Jacques ?
Je n'ai jamais cassé de strapontins.
Des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par François Stressart avec Anne de Pelchin et Manuel Couturier. Un numéro des papous à télécharger sur franceculture.fr pendant 1 an. Pour vos histoires avec les 10 mots, direction notre page Facebook où il fait bon se retrouver. Prochain rendez-vous, papou, dimanche à 20h pour une nouvelle rediffusion d'été. Au revoir, passez une très belle soirée sur France Culture.